Donc ce matin, on est dans Marc chapitre 7 et le verset 31. Et je vous avoue que j'ai eu de la peine à trouver un titre. Et alors vous allez voir le titre que je pense décrit ce texte, mieux que tout autre, j'en sais rien, mais c'est un titre que j'aime bien. Le voici, miracle à la chaîne. Miracle à la chaîne. Regardez le verset 31, d'accord? Déjà, mettez un doigt dans Matthieu 15, on va y aller tout de suite, d'accord? Donc on va déjà lire Marc chapitre 7 et le verset 31. Il est dit ceci, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On va revenir au verset 32, mais Matthieu nous donne ce qui se passe entre le verset 31 et 32. Donc on va y aller. On va aller à Matthieu chapitre 15 et le verset 29. Et je continue la lecture. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Retour à Marc chapitre 7. Et on continue au verset 32. Et on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on les pria de lui imposer les mains. Et on s'arrête là. On va regarder la suite du texte dans quelques instants. Ce que nous allons voir ce matin, mes amis, c'est une série époustouflante de miracles époustouflants. Guérison après guérison après guérison après guérison. C'est ce qu'on va voir. C'est tout ce qu'on va voir. On va les lister et on va y aller. Alors peut-être avant de comprendre pourquoi, pour vous expliquer pourquoi, d'accord, plutôt, c'est mieux. Allez avec moi à Matthieu 11. Matthieu 11. On va voir miracle après miracle, guérison après guérison. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la Bible liste tellement de guérisons et aujourd'hui on va les voir à la chaîne? Vous vous rappelez l'incident, Jean-Baptiste venait de confronter Hérode pour sa relation adultère. Ça a mal tourné pour Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en prison, plus tard il sera décapité. Il est en prison et Jean-Baptiste a un moment de doute. On est dans Matthieu 11, verset 1, lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, donc Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jean-Baptiste avait lui-même baptisé Jésus, c'est lui qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il était convaincu. Mais là, dans sa prison, il y a un moment de doute. On l'avait déjà regardé ensemble. Même les plus grands dans la foi peuvent passer par des moments de doute. Et donc là, dans sa cellule, il s'est dit, mais est-ce que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu qu'on attend, le Messie, vraiment? Réponse, regardez, verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » C'est très intéressant comment Jésus communique à Jean-Baptiste. Écoute, tu veux savoir qui je suis vraiment? Regarde. Et là, il liste guérison après guérison, miracle après miracle. Quel est le but de ces miracles? Allez avec moi maintenant à Jean 20, Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Pourquoi tous ces miracles que Jésus a faits, Je vous donne quelque part la conclusion du message ce matin, avant le message. Mais au moins, vous savez où on va. Regardez ce que Jean dit au chapitre 20 et au verset 30. Jésus a fait encore, donc hormis les 35 miracles qui sont mentionnés dans la Bible tels quels, d'accord ? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Vous savez, on lit dans la Bible tous les miracles que Jésus a fait, mais il en a fait beaucoup d'autres qui ne sont même pas mentionnés dans la Bible. C'est ça qui est assez marrant. Pourquoi ? Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces miracles que Jésus a faits avaient comme but de prouver au monde qu'il était réellement le Messie, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu, c'est normal. Lui qui était incarné, c'est normal puisqu'il était divinité, qu'il soit doté de cette divinité visible. Et chaque fois qu'il effectuait un miracle, chaque fois qu'il effectuait une guérison, eh bien, il affirmait qu'il était réellement le Fils de Dieu, le Messie, et, regardez, il ne faut pas s'arrêter là, et qu'en croyant en lui, en plaçant sa foi en celui qui est mort et ressuscité pour nous, que nous ayons la vie en son nom. Christ, Jésus-Christ, est le seul, mes amis, venu du Père, sans péché, qui a pris nos péchés sur lui. Il l'a prouvé en faisant miracle et en ressuscitant des morts. Mais le but ultime, c'est que nous puissions avoir la vie en son nom. Donc j'espère qu'à la fin de ce message, vous allez dire « Waouh ! Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Je te demande de devenir mon Sauveur et mon Seigneur. » Ça, ce serait le but ultime, le plus joyeux de tous. Qu'on soit tous totalement affirmés dans cette vérité. Alors avec cette introduction, retour à Marc. Marc chapitre 7. J'ai divisé notre texte en trois parties toutes simples. Premièrement, nous allons regarder les guérisons non-stop. Deuxièmement, nous allons voir la guérison d'un sourd muet. Et troisièmement, le deuxième miracle des pains et des poissons. D'accord ? Ça va être assez vite ce matin, on ne va pas aller dans un grand détail, on a déjà vu certains de ces miracles dans d'autres chapitres, mais j'espère que vous serez aussi fascinés que je l'ai été moi-même. Donc regardons en premier, simplement ce texte que j'appelle les guérisons non-stop. D'accord ? Regardons premièrement Marc chapitre 7 et le verset 31, juste pour nous mettre dans le contexte. D'accord ? Le lieu des guérisons, le premier sous-point. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon par la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Alors vous rappelez que nous avons été, le verset 24 nous le dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon. Donc Jésus avait été dans cet endroit, Tyr et Sidon, un territoire païen sur la côte nord de la mer Méditerranée. Vous rappelez qu'il y était allé pour un temps de repos avec ses disciples, mais que là, dans ce lieu, il y a une femme cananéenne, on a vu ça la dernière fois, elle a rompu le silence en criant et suppliant à Jésus de guérir sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon, possédée par un démon. Alors bien sûr, il lui avait expliqué que son rôle était en premier d'accomplir son ministère auprès des Juifs avant de se tourner vers les païens, donc il lui a dit « écoute, c'est pas tout à fait le moment ». Mais elle a insisté, elle a demandé simplement des miettes de sa table, il a dit ok, et donc il a guéri cette femme, d'accord ? Ça on a vu la dernière fois. Et donc au verset 31, on apprend, il a guéri la fille de cette femme, excusez-moi. Verset 31, nous dit donc que Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Alors on va regarder le petit plan. Donc là on voit Tyr et Sidon, on l'a regardé la dernière fois. Mais ce qui est intéressant, il ne redescend pas à Capernaum sur la gauche, si on veut, du Jourdain, mais à droite, dans le pays, ce qu'on appelle la Décapole. Là, on a les Golan Heights, c'est marqué. C'est un territoire qu'on appelait autrefois la Décapole, une zone de 10 villes païennes, non juives. Alors, pourquoi est-ce qu'il va dans cette direction? Le texte ne le précise pas. On a l'impression, par contre, que Jésus a délibérément évité la région où régnait Hérode Antipas, là où Jean-Baptiste avait été décapité. Donc, par prudence, il va dans cette région païenne. C'est pas la première fois qu'il y va. On avait vu ça dans Marc 5. Jésus était allé dans le pays de Gadara, dans la même région. Il avait chassé des démons d'un homme possédé. Vous vous rappelez que ces démons étaient rentrés dans un troupeau de pourceaux après avoir quitté cet homme. Et l'homme délivré, nous dit le texte, est allé prêcher, Marc 5, 20, dans toute la Décapole. Et ça, ça explique, très important, que Jésus, même dans ce territoire où il avait jamais encore, enfin, il avait mis les pieds, mais disons très peu, il était déjà très connu. Parce que cet homme avait préparé quelque part le terrain. Donc, le verset 31 nous dit qu'il y est allé vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Matthieu 15, 29 nous dit qu'il est monté sur la montagne et il s'assied. Donc il y avait une sorte de colline dans cette région, il s'y est assis. Alors à partir de là, Marc nous relate la guérison du sourd-muet. Avant, il faut retourner à Matthieu 15, allons-y. J'aimerais vous montrer ces trois versets époustouflants par rapport à ce qui se passe avant qu'on voit un miracle en particulier et en détail. Donc, on reprend à partir du verset 29 de Matthieu 15, « Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. » Et là, on voit, deuxième point, les demandeurs de guérison. Le verset 30 nous dit « Alors s'approchait de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit à ses pieds et il les guérit. » Écoutez, ce verset est tellement simple et non éclatant qu'il est étonnant. Il est dit tout simplement qu'on mit tous ces gens à ses pieds, il les guérit. C'est tout. En fait, il n'y avait rien d'autre à dire. Examinons un petit peu de plus près. Il est dit qu'il s'approcha de lui une grande foule. Alors, de quelle taille était cette foule? Regardez le verset 38 de Matthieu 15. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. 4000 hommes. C'est comme ça qu'on comptait un petit peu à l'époque. Si on ajoute femmes et enfants, on peut estimer la taille à entre 15 et 20 000 personnes. Alors, c'est pas rien. Et c'est pour ça que Matthieu nous dit que c'était une grande foule. Je pense que c'est une grande foule. Le stade à côté, vous le connaissez bien, 35 000. La moitié, plus 10 000, on est à peu près dans les zones. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Et ils n'avaient pas de micro. D'accord ? Alors, de qui était composée cette foule? Alors, s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle. Alors, c'est des gens qui apportent avec eux. C'est très important. Donc, les gens qui sont bien physiquement se disent, ah, Jésus est là-bas, amenons nos malades, amenons tous les gens qu'on connaît, il va guérir tout le monde. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Ils amènent avec eux, premièrement, des boiteux. Donc, c'est des gens qui n'ont pas un usage normal de leurs membres, surtout inférieurs. Ensuite, il y avait des aveugles. Il y avait des gens qui étaient non-voyants, ou bien d'une manière congénitale, ou bien issus d'une maladie ou d'un accident. Peut-être des gens très malvoyants ou carrément non-voyants. On apprend qu'il y avait aussi des muets. C'est des gens qui n'arrivaient pas à parler. Et donc, il y avait certainement aussi de la peine à entendre. On verra le sourd-muet être guéri dans quelques instants. Il y avait aussi, on apprend ici, des estropiés. Plus, c'est un mot plus spécifique que le mot boiteux, bien que la même racine, il se réfère à une partie du corps qui est déformée, qui ne peut plus être utilisée. Peut-être même, cela peut inclure une mutilation ou perte totale d'un ou plusieurs membres. Jésus utilise le même mot pour décrire celui dont la main ou le pied est coupé. Hein, si tu es tenté, coupe ta main, si ton œil coupe. Coupe ta main ou coupe ton pied ou arrache ton œil. Il y avait donc des personnes qui venaient ce jour-là extrêmement déformées. Et dans certains pays aujourd'hui, où la médecine n'est pas à la pointe, on voit des gens comme ça à l'extérieur. Souvent, peut-être certains de vous, vous savez de quoi je parle. Moi, je me rappelle quand j'avais été en Inde en 1976, moi j'étais vraiment frappé par les malades qu'on voyait, les gens déformés qu'on voyait sur les trottoirs. Donc quand je lis ce verset, je pense à ça. C'est le souvenir que moi j'ai. Mais regardez ce qu'il dit encore. Et beaucoup d'autres malades. Il y avait vraiment des malades de tout genre. Des gens paralysés partiellement ou totalement. Peut-être des gens possédés par des démons. Des gens vieillissant avec des problèmes respiratoires ou digestifs ou sanguins ou pulmonaires. Il y avait peut-être des schizophrènes. Il y avait peut-être des gens un petit peu moins malades, mais qui voulaient quand même être guéris. Hein. Quand il y a une sorte de foule, et tout le monde va se faire guérir, tu dis, ben, j'ai un rhume, j'y vais aussi. Non, ben oui, on y va tous. Alors j'ai regardé un petit peu le genre de maladies qui sont souvent mentionnées dans la Bible. Il y a plein de maladies dans la Bible. La cécité, bon, on va en revoir. La surdité, le mutisme, la paralysie, le rhumatisme articulaire, les malformations congénitales, des meurtrissures, des tumeurs, des ulcères, la peste, des hémorroïdes, la gonorrhée, la lèpre, la fièvre, la dysenterie, les maladies intestinales, l'hydropisie, bref, toutes les maladies que vous pouvez imaginer, les gens ont amené tous ces malades pour rencontrer Jésus. Vous savez, cette colline, hein, il faut se dire 15 à 20 000 personnes, vous amenez tous les malades que vous connaissez, tous. Cette colline s'est changée en hôpital ce jour-là, il y avait un médecin, Jésus. Trois, le moment de la guérison. Verset 30. On les mit à ses pieds et il les guérit. Impliqués tous. Tous. Les gens ont amené leurs malades. On les a mis devant lui. Et il les guérit tous. C'est intéressant le mot maître ici. Il est mis. C'est le mot pour jeter brusquement ou balancer brusquement comme utilisé pour une amarre de bateau. Vous savez, on lance l'amarre sur le port. Ou bien, c'est le même mot utilisé pour lancer, disons, un habit sur une chaise. Donc on peut dire, alors je ne crois pas qu'il le faisait littéralement, d'accord, mais il balance les malades aux pieds de Jésus. Je ne pense pas qu'il le faisait d'une manière négligente ou inconsidérée, mais d'une manière précipitée. On a l'impression qu'à fur et à mesure que les gens étaient mis aux pieds de Jésus et qu'ils étaient guéris, eh bien il y a une sorte de frénésie qui s'est dégagée dans la foule. Les gens montaient avec leurs malades et ils entendaient des cris. Ils entendaient des gens sursauter de joie qui se faisaient guérir carrément à la chaîne. Ils les amenaient, ils les guérissaient, ils les amenaient, ils dégageaient, les autres arrivaient. Et c'était une sorte d'usine à guérison, c'était incroyable. Et on peut imaginer ce qu'on entendait, les cris de joie, des gens qui pleuraient. Et je pense que les gens se disent, mais il faut qu'on se grouille au cas où les miracles s'arrêtent. Tu voulais pas rater la bénédiction là, tu voulais surtout pas être le dernier venu. Ah non, c'est terminé. Ah non, là c'était pas possible. Donc on peut imaginer une sorte de frénésie pour y aller quoi. Et là, tous les malades, quelle que fût la nature et la gravité de leur maladie, ont été guéris instantanément, totalement et parfaitement. Tous sans aucune exception. Il faut juste réfléchir à ça, quoi. On ne peut qu'imaginer la scène. La réaction. Verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration. De voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient et les aveugles voyaient. Et qu'elle glorifiait le Dieu d'Israël. Waouh ! Tous les malades, quelle que furent la nature et la gravité de leur maladie, furent guéris, sans aucune exception. Les maladies listées sont au pluriel, c'est intéressant. Juste le bruit, quoi, des gens qui criaient. Puis les gens qui les avaient amenés, qui criaient avec eux. Les gens qui sursautaient de joie, les gens qui n'avaient jamais marché de leur vie, ils commencent à courir, ils sautent, ils dansent. Les gens qui n'avaient jamais parlé, ben, on ne les arrête plus là. Ils parlent, ils chantent, ils crient. Les gens paralysés qui repartent avec un corps instantanément en parfaite santé. J'ai pensé, est-ce que quelqu'un qui n'avait pas de bras ou pas de jambes a reçu un nouveau bras, une nouvelle jambe? Alors, il y a un exemple. Vous vous rappelez Malchus? Dans le jardin de Gethsémané, son oreille a été coupée par notre ami Pierre et remise par notre ami Jésus. Vous vous rappelez? Jésus a touché son oreille. Alors, est-ce qu'il a créé une nouvelle oreille? Est-ce qu'il a recollé l'ancienne? On n'en sait rien. Moi, j'ai toujours pensé qu'il en a créé une nouvelle. Bref, c'est un exemple d'un membre qui a été remis en place. Donc, est-ce qu'il y avait des manchots, des gens sans jambes ou sans mains ou sans bras qui ont reçu des nouveaux membres? Je pense que oui. Alors, le résultat, bah, c'est que les gens glorifiaient le Dieu d'Israël. Ils ont fait le lien, ces gens-là, apparemment ce jour-là. Jésus, fils du Dieu d'Israël, le Messie. Si ça avait été eux en prison, comme Jean-Baptiste, ils se seraient dit, t'en voir, c'est peut-être lui. Là, c'est peut-être lui. Ben là, ils ont conclu que oui. Et donc, cette colline s'est transformée en église avec un immense culte. Un culte. Hommes, femmes et enfants. Quelle majesté. Alors, tenez-vous bien. Vous croyez que ça a duré combien de temps, ce culte? Verset 32. Jésus, en appelant ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » 3 jours. C'est pour ça que j'ai mis guérison à la chaîne. Non mais 3 jours. C'est dingue. C'est même pas, le mot est vraiment petit par rapport à ce qui se passait ce jour-là, ces 3 jours. Oh, 3 jours. Vous savez, mes amis, ces 15 personnes présentes, 15 000 personnes présentes, 15 à 20 000 personnes qui étaient des gens non juifs, la plupart, on a l'impression. Peut-être ce jour-là, ont reconnu que leur dieu, Zeus ou Aphrodite ou Athénès ou Hercule ou Dionysien ou Déméter, finalement, n'étaient que des faux dieux qui, eux, ne pouvaient rien leur apporter. Ils ne pouvaient même pas accomplir une infime fraction des miracles effectués ce jour-là par Jésus. Écoutez, le nombre énorme de miracles que Jésus faisait était écrasant. Ils devaient se dire, mais ma religion, elle me sert à quoi finalement? Non, là, ils réalisent que le Dieu d'Israël était présent sur cette colline ce jour-là. Retournons à Marc 7. Matthieu nous a donné un survol de tout ce qui se passait pendant ces 3 jours. Marc, il se focalise sur un miracle. Un miracle en particulier, une guérison et ensuite un miracle, je devrais dire. Premièrement, la guérison d'un sourd muet. On va aller très vite, hein, c'est vraiment un récit, c'est du narratif. Donc verset 31 de Marc 7, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Et là, parmi tous ces gens qu'il était en train de guérir, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Donc premièrement, le handicap. Le handicap. Eh bien, on apprend qu'il était sourd, donc il n'entendait pas. Et il avait de la difficulté à parler, ce qui est apparemment le cas avec les gens qui n'entendent pas, parce que c'est lié. Donc il avait de la difficulté à parler, il n'était pas totalement muet, juste il arrivait pas bien parler. Alors la requête, regardez, ne vient même pas de lui. Et on le pria de lui imposer les mains. Donc il a été amené par ses amis, et peut-être une petite parenthèse, c'est bien d'avoir des bons amis, non ? Quelqu'un qui vous aime tellement qu'il serait d'accord de vous amener à quelqu'un comme Jésus pour être guéri. Et moi, vraiment, moi je vous dis franchement que l'Église, c'est super ça, pour avoir des amitiés, des bonnes amitiés. Là, on se connaît en Christ, on est frères et sœurs en Christ. On peut s'aider, entraider, prier les uns pour les autres. Alors, si vous ne connaissez pas la vie intime d'une Église, ben, je vous invite. C'est super d'avoir une église. Vraiment, c'est super. Donc on lui pria de lui imposer les mains. C'était un des moyens les plus habituels qu'il utilisait. Donc d'imposer les mains. Donc les gens se disaient, ah, il faut qu'il impose les mains pour guérir cette personne. Donc on s'imaginait que c'était la seule manière de le faire. Ce n'est pas le cas. Et donc on lui amène. Trois, la méthode. Verset 33, il le prit à part, loin de la foule, donc il prend ce sourd-muet. Il le prend à part, loin de la foule. Ensuite, il fait un truc plutôt étrange. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Alors, je suis convaincu que vous avez déjà lu ce miracle et vous avez dit, mais pourquoi il a fait ça ? Vrai ou pas vrai ? Moi aussi. Je me suis posé la question. Et voici ma réponse. Honnêtement, j'en sais strictement rien. D'accord ? Je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment expliqué. Personne ne le sait vraiment. Alors, il y a beaucoup d'idées. Certains pensent que c'est un sort de langage de signes. Vous savez, les sourds-muets, ils ont un langage. Ça, je sais que c'est Jésus, par exemple. Tac, tac. D'accord ? Je crois, je ne fais pas très... Je le fais pas bien, hein. D'accord. Ma fille est en train de me dire, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça, hein. C'est tang, tang, je crois, d'accord. Alors, est-ce qu'il y avait un sort de langage de signes? Peut-être c'était simplement un point de contact pour lui montrer une manière concrète ce qu'il avait l'intention de faire, puisqu'il avait la peine à entendre. Qu'il voulait guérir sa surdité, donc il a mis ses doigts dans ses oreilles et son problème de parole. Mais pourquoi sa salive sur sa langue? Honnêtement, ça reste un mystère. Alors, si vous avez une bonne idée, venez me voir après, d'accord ? Ça montre qu'il ne fait pas toujours pareil. On a vu déjà Jésus guérir à distance, avec imposition des mains, ici, comme cela. 4, la prière. Verset 34, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephrata ». Ephrata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Donc il soupire, on ne sait pas exactement pourquoi non plus, et il prie. En araméen, ce mot veut dire ouvre-toi, tout simplement. Ceci montre d'une manière visible à cet homme que sa guérison va venir du ciel. C'est pour ça qu'il a levé les yeux au ciel, il a prié pour que cet homme sache que sa guérison vient de Dieu. 5, la guérison, verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Écoutez, ça, ce verset, moi, je le trouve absolument incroyable. Parce qu'il est dit, premièrement, aussitôt, c'était immédiat. Immédiat. Sa langue, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Donc, un miracle instantané. Et, juste pour souligner que c'était vraiment un miracle instantané, et il parla très bien. Il parla très bien. Et la recommandation, verset 36, Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Bien qu'ici, comme avec la femme syrophénicienne qu'on a vue la dernière fois, et dans d'autres instances également, Jésus, de manière ponctuelle et exceptionnelle, à exercer son ministère envers des non-juifs, ce n'était pas son intention d'exercer un ministère public et régulier envers eux encore. Ça, c'était vraiment le rôle de Paul, je pourrais dire. Donc, on peut dire que cette instance est un peu comme la femme syrophénicienne, ce sont des miettes. Des miettes. Et donc, il ne voulait pas que sa renommée devienne trop importante et que ça puisse même devenir en danger. Mais bon, il donnait ses recommandations et ça ne marchait pas trop parce que plus ils leur recommandèrent de ne rien dire, plus ils annoncèrent ce qui se passait. Ben, c'est normal, on peut presque imaginer avec toutes les guérisons qui venaient d'y avoir, ben, les gens partent en courant pour annoncer ça à leur famille et à leurs amis. Et la réaction, verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Les gens ont la bonne conclusion. Il fait tout à merveille. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Maintenant, passons au troisième point. Regardez. Le deuxième miracle des pains et des poissons, chapitre 8, verset 1. De nouveau, on vient de regarder le premier miracle il y a quelque temps en arrière, donc on va juste le parcourir rapidement, mais il est très très intéressant. Donc il est dit au chapitre 8, verset 1, « Ces jours-là, une foule nombreuse étant de nouveau réunie, n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que certains commentateurs insistent sur le fait que ce récit de la multiplication des pains et des poissons est une répétition de l'autre récit qui se trouve au chapitre 6 du même livre qu'on a déjà regardé. Le problème, c'est qu'il y a tellement de différences entre les deux qu'on doit conclure que ce sont 2 récits différents. Donc Jésus a 2 fois multiplié pain et poisson. Par exemple, les lieux géographiques sont différents, les saisons sont différentes, le nombre de pains et de poissons sont différentes, le nombre des personnes réunies sont différentes, le nombre de paniers est différent et le genre de panier est différent. Donc il y a tellement de dissimilitudes qu'on doit conclure que c'est un autre incident. Donc, 15 à 20 000 personnes, 3 jours avec Jésus, ils commencent à avoir faim. Ils commencent à avoir faim. Donc, on voit le besoin de la foule, premièrement. Ils ont faim, et verset 2, Jésus est ému de compassion pour cette foule. Et il dit au verset 3, si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Alors c'est intéressant, le mot pour compassion, c'est le mot splagna qui décrit littéralement les boyaux d'une personne. Vous savez, quand vous êtes face à quelque chose d'horrible, vos boyaux se mettent en nœud, ça. Ce nœud de compassion, d'horreur, ce que vous voyez. Et littéralement, le mot veut parler de souffrir avec quelqu'un. Donc, il est sensible à la souffrance de cette foule qui a faim. C'est le même mot, d'ailleurs, ça c'est intéressant, utilisé dans Matthieu 9, 36, par rapport à l'état spirituel déplorable des Juifs. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Matthieu 9, 36, il fut ému de compassion, même mot, pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc voilà, il avait cette même compassion d'horreur, ce nœud dans l'estomac, en voyant ce peuple suivre les pharisiens qu'il condamne en Matthieu 23, sur l'erreur spirituelle. Donc, la faim physique ici, mais ensuite l'erreur spirituelle, ces choses qui font que la compassion de Jésus est activée. Alors, verset 4, ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on se rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Alors c'est intéressant, on doit se poser la question pourquoi les disciples posent cette question à Jésus après avoir expérimenté le même miracle jusque quelque temps avant. Ils viennent de voir Jésus créer de la nourriture pour une foule gigantesque. Et là, ils disent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus, on a un problème, on a un gros problème. Ces gens ne peuvent pas être rassasiés de pain. Comment on va faire ici dans le désert ? Mais il vient de faire le miracle un chapitre avant. Alors la réponse, elle est probablement qu'ils ne voulaient pas présumer sur le miracle de Jésus. N'oublions pas qu'après avoir fait le premier miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus a eu une parole forte contre ceux qui le suivaient pour recevoir un repas gratuit. Dans Jean 6, 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il les gronde parce qu'il leur dit, beaucoup de vous, vous êtes venus pas pour moi, mais parce que je vous crée de la nourriture gratuite. Voilà, vous voulez un repas gratuit. Il n'était pas là juste pour distribuer des repas gratuits à éternité. C'est pour ça que certains se disaient, ben, si Jésus pouvait devenir un leader politique, ce serait top en Israël. C'est vraiment, comment dire, nourriture à gogo pour tout le monde, sans arrêt. Ce serait génial, non? Vous avez raté le but ici, mes amis. Donc, je pense que les disciples, ils ne veulent pas être regrondés, alors ils ne savent pas trop comment dire et quoi dire. Ils admettent tout simplement qu'ils étaient incapables de pourvoir à manger pour une foule de 4000 hommes, comme c'était le cas pour la foule de 5000 hommes. Donc, on va leur donner le bénéfice du doute, quelque part, c'est peut-être bien. Peut-être ils réalisent, ah, Jésus, il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a que toi qui peux faire. Comme la dernière fois. Le miracle du Seigneur, regardez, verset 5. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain ? Regardez la vitesse avec laquelle vient la réponse. Il dit, combien avez-vous de pain ? 7, répondit-il. 7. Matthieu rajoute, et quelques petits poissons. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas le laps de temps entre la question et la réponse. On a quand même l'impression que les disciples avaient anticipé. Je me demande si certains des disciples ont dit, écoutez, là, on a un problème, les gars, ça fait 3 jours qu'on est là, tout le monde a faim. Je me demande si Jésus va peut-être faire un miracle. Allons voir si on peut trouver un petit pique-nique chez un enfant, le ramener, comme ça il sera tout prêt quand Jésus va le demander. Là, j'invente, je ne sais pas, d'accord? Mais ce n'est pas impossible. Donc, ont-ils envoyé un disciple pour trouver un enfant insoupçonné pour lui demander de céder son pique-nique? Possible. Ce qu'on sait, c'est que 7 pains ont été trouvés dans cette foule de 15 à 20 000 et quelques petits poissons, rajoute Matthieu. Verset 6. Alors, il fit asseoir la foule par terre. Alors, cette phrase, elle est courte, mais pensez-y. 20 000 personnes. Asseyez-vous par terre. Comment vous allez faire pour distribuer après? Alors, c'est intéressant que dans le miracle précédent, le même miracle, donc dans chapitre 6 et le verset 39, il est dit, alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Donc très ordonné. Donc il est probable, bien que ce n'est pas précisé dans ce miracle-là, que Jésus les a fait asseoir en rangées de 50 et de 100. Donc, pour avoir un total de 15 à 20 000, il faut au moins 100 rangées de 100 personnes. Et 50 rangées de 50 personnes pour 15 000 personnes. Enfin, 100 rangées de 100 personnes. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Là, il y a 20. Donc, c'est 5 fois ça, 100 personnes. Ça fait beaucoup. Ça demande une sacrée organisation. Verset 6. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Jésus prend donc ces 7 pains, il rend grâce, il remercie Dieu publiquement pour la nourriture. C'est une raison que nous le faisons aussi, en fait. Hein. Lorsque vous mangez, je pense que la plupart de vous qui connaissez le Seigneur, vous rendez grâce Bien que vous travaillez, vous faites un salaire et vous achetez votre nourriture, par ce geste, vous réalisez que même votre travail, même votre salaire vient de Dieu. Tout ce qu'on reçoit vient de Dieu, et donc on remercie le Seigneur même pour notre nourriture. C'est ce qu'il fait. C'est marrant, le verset 7 est presque comme une arrière-pensée, ou une pensée oubliée. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus en rendit grâce, le fit aussi distribuer. Donc, c'est comme s'il y a, voilà, verset 6, alors il fait asseoir la foule par terre, on s'est rangé, il prit les 6 pains, les 7 pains, après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples pour les distribuer. Alors, à quel moment est-ce que le pain s'est multiplié? On a parlé de ça la dernière fois. Est-ce qu'il les multipliait devant lui, et ensuite il devait monter les rangées avec les pains et revenir en chercher? Dans le dernier miracle, on avait vu que c'était probable que les disciples, en distribuant, donc il avait béni ça, et en distribuant, apparemment dans ces rangées, le pain et les poissons se multipliaient. Ici, on a vraiment l'impression qu'ils les multiplient, ils amènent, ils reviennent, ils ramènent, ils reviennent. Donc c'était, ça a pris du temps tout ça. Ah oui, et le verset 7, j'ai oublié, et ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, on a oublié, alors il a distribué du pain. Ah écoute, on a oublié, il y avait des poissons. Quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, donc on a l'impression, deuxième fois, fit aussi distribuer. Donc là, c'était deux mets distincts. En premier, les pains, deuxième mets, les poissons. Et il les fit distribuer. Verset 8. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoyait. De nouveau, la simplicité et le non-éclat de ce miracle. C'est comme si cette simplicité lui donne une puissance encore plus extraordinaire. Et donc ils mangèrent et furent rassasiés. Et Matthieu dit bien, ils mangèrent tous. Tout le monde a mangé à sa faim. Personne n'est reparti avec un trou dans l'estomac. Ils ont tous été rassasiés. 15 000 personnes. Je ne suis même pas sûr que McDo pourrait faire ça. Rapidement. C'est vrai? C'est incroyable. Là, dans un champ. Alors, je me suis posé une petite question de calcul. Hein. C'est un petit peu comme ça que je suis. Imaginons que c'était des petits pains ronds. Alors, je sais que c'était probablement les pains, vous savez, plats. Alors, imaginons les pains plats. Imaginons les sardines. Les petits poissons à la sardine, d'accord? Combien est-ce qu'il a dû en créer pour rassasier cette foule? Alors moi, des fois, je vais en haut, je vais manger un kebab, d'accord? Et ils sont très bons d'ailleurs. D'habitude, j'en mange un. Alors si je n'avais pas mangé depuis 3 jours, peut-être j'en mangerais 2. C'est pas impossible. Alors prenons le kebab comme base, d'accord, de calcul. Est-ce que les pains et les sardines étaient la taille d'un kebab? J'en sais rien, je présuppose, d'accord? Allez, on dit combien de sardines? 5. 5 sardines dans chaque pain. Peut-être c'était les poissons un petit peu plus grands que les sardines. Grand total, je calcule vite, 30 000 pains et 50 000 sardines. Ça fait beaucoup. Sans compter les 7 paniers pleins de restes. Vous savez, je fais ça, en fait, pour nous montrer la taille énorme de ce miracle. Est-ce que ce récit, c'est un des récits, il est mentionné 2 fois dans le même livre, un chapitre plus tard. Pourquoi? Est-ce que ce miracle est peut-être presque le plus époustouflant de tous? Bien, tout miracle est époustouflant, toute guérison est époustouflante, mais il y a tout simplement une quantité où chaque personne est touchée. C'est ça. Chaque personne est touchée. Chaque personne reçoit un kebab, d'accord, miraculeusement créé par Jésus. Vous vous rappelez Colossiens 1:15, le Fils, parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez mes amis, si le Fils de Dieu a créé tout ça, est-ce qu'il ne peut pas créer quelques milliers de pains et de poissons? C'est rien. C'est rien. Mais c'est ce qu'il est dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous savez, des fois j'entends des gens comme ça, quand vous parlez avec eux dans le tram ou dans l'avion, je ne sais pas, n'importe où. Oui, moi je crois que Jésus était un homme bien, avec une bonne philosophie, là, il disait des choses très très positives. Dans ma tête, je dis, attends, écoutez, arrêtez. Lisez Marc 7. Lisez Colossiens. Jésus était juste un bon philosophe, il avait une bonne théorie, mais attendez voir, c'était Dieu incarné. Il a créé tout ce qui se voit sur la terre, dans les cieux, et il peut créer 15 000, 30 000, 50 000, 100 000 sandwichs instantanément s'il le veut. Et si tu crois pas, va lire la parole de Dieu. Alors ça, c'est ce que j'ai envie de répondre, d'accord? Je réponds pas toujours comme ça. Mais vous voyez, mes amis, Jésus est qui exactement? C'est ça, on revient toujours à la même question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Qui est Jésus? C'est intéressant, même Jésus, hein, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Ah, tu sais, moi je ne suis pas trop convaincu hein, par rapport à toi, Jésus. Jean 10, 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ensuite, il dit ceci. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Si tu n'es pas convaincu par rapport à Jésus, tu dis, ouais, je ne suis pas sûr, Jésus c'est qui? C'est le Fils de Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Écoute, regarde les œuvres qu'il fait. Contemple les miracles que tu as vus aujourd'hui. Et dis-toi, d'où viennent ces miracles? D'où viennent-ils? Eh bien, lui, il répond, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi que je viens du Père, que je suis issu du Père. Jean 10, 37 et 38, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Moi, j'aime bien, c'est très logique le christianisme. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ben, ne croyez pas que je viens du Père. Si je viens du Père, c'est logique que je fasse les œuvres de mon Père. Donc il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est le but, mes amis. C'est le but. On revient toujours à la même question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Verset 8. C'est comme si pour enfoncer le clou. Ils mangèrent et furent rassasiés. Là, on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. C'était comme quand les gens redescendaient la montagne, là, ils défilaient pour rentrer chez eux, ils voyaient ces 7 paniers remplis encore de pain et de poisson, juste pour leur rappeler, écoutez les gars, il y a vraiment eu un miracle ici aujourd'hui. Il y a vraiment eu un miracle. Regardez, tac, 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 tac. Donc je pense qu'il y a Là, on arrive à la conclusion. Je pense que la plus grande leçon ici, c'est simplement que nous devons constamment considérer et contempler la puissance incomparable et sans égale de Jésus-Christ. La deuxième leçon est simple. Je pense qu'on voit un Jésus aussi plein de compassion ici et de miséricorde. Alors, vous savez, on a envie de prendre des passages comme ça et de dire, bon, ben, alors, est-ce que ça veut dire que Jésus va me guérir moi ? C'est normal, on dit ça, j'aurais bien voulu être là ce jour-là, comme ça il m'aurait guéri. Non ? Et peut-être, ça fait des années que vous priez pour une guérison, vous ne l'avez pas encore, vous dites, mais alors, est-ce que j'ai un problème ? Écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important, d'accord ? Je crois que la deuxième leçon ici, que Jésus est sans égal dans sa compassion et anticipe nos besoins, il répond quand et comme il veut. Écoutez bien. Alors Jésus, à cet instant, sur cette colline, ce jour-là, il est vrai, a guéri tout le monde. On l'avait vu aussi dans Capernaüm. À un moment donné, il a vidé Capernaüm de malades. Ça, c'est juste. Est-ce que c'est la norme ? Est-ce que c'est la norme ? Non. C'est pas la norme, parce qu'il n'a fait ça que deux fois. Que deux fois. Alors, il a fait beaucoup d'autres miracles, mais c'est que les deux instances, une fois à Capernaüm et une fois ici, où tout le monde est totalement guéri en un instant, ou là, dans ces trois jours, ou ces quelques jours à Capernaüm. Est-ce que Jésus, maintenant, est-ce qu'on va se dire, voilà, je prends ce texte, maintenant, Jésus, écoute, pourvois à manger, s'il te plaît, donne-moi à manger, pour le reste de ma vie, j'ai plus envie de travailler. Est-ce que c'est juste ça? Ah ben non. Mais non, c'est pas juste, parce que il faut quand même lire la Bible avec la Bible. 2 Thessaloniciens 3:10 dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Non, si t'es paresseux, la Bible est claire, tu ne mangeras même pas. Faut pas aider un paresseux. Si quelqu'un est paresseux, mes amis, ne lui donnez rien. Zéro. Mais non, si quelqu'un veut travailler, ne peut pas travailler, ça c'est autre chose. Ça c'est la miséricorde de l'aide. Mais si quelqu'un ne veut pas travailler, non, tu ne l'aides pas. Donc la Bible nous dit que la méthode normale de manger, c'est de travailler, gagner un salaire et acheter la nourriture. C'est très important. Deuxièmement, encore dans le même point, on voit que ces miracles, bien qu'ils étaient abondants, étaient exceptionnels. Ils ne devraient jamais être considérés la norme. Est-ce que Jésus a nourri tout le monde en Israël comme ça ? Non. Est-ce qu'il a guéri tous les gens malades en Israël ? Non. Il y a des gens qui sont restés malades pour le reste de leur vie. Jésus ne garantit pas la guérison de tout le monde. Et on l'avait même vu avec Paul. Paul avait un problème, une écharde dans la chair. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il dit dans 2 Corinthiens 12:7, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Beaucoup de discussions sur ce que ça pourrait être. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc cet ange de Satan affectait son corps. Et il est dit au verset 8, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Attendez, ça c'est l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps, avec un homme de foi. « Seigneur, enlève cette écharde. » Réponse, non. Non mais attendez voir, c'est quand même dingue. Réponse, non. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors est-ce que ça veut dire qu'on se soucie des malades, qu'on prie pour eux ? Oui, absolument. Absolument. Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns et les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficace. Et dans certains cas où vraiment la maladie est compliquée, les gens sont affaiblis, on peut même appeler des anciens pour prier pour eux. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Jacques 5,14, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Car la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Bien sûr qu'on peut prier. Est-ce que ça veut dire que Dieu va répondre oui à tout le monde ? Non. Donc il ne faut pas prendre ces textes et les rendre normatifs. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Vous pouvez lire le livre de Johnny Erickson Tada, qui est tétraplégique. et qui a demandé à Dieu de la guérir pendant des années. Dieu ne l'a jamais guérie. Mais sa foi aujourd'hui rayonne dans le monde entier. Si vous ne connaissez pas ce livre, prenez-le. Il est vraiment, vraiment bien. Et avec ça, mes amis, je crois que la manière que la foule a réagi en adorant le Fils de Dieu nous apprend que nous devons conclure ce qui est juste par rapport à Jésus. Jésus, mes amis, est le Messie. Il est le Messie. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et Jean le dit comme ceci, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Moi, je t'appelle quelque part aujourd'hui, si tu ne connais pas Christ, maintenant, tu as vu la puissance de Jésus. Ce Jésus-là peut te sauver, te pardonner tes péchés, comme ça. Il faut lui demander. Prions. Et si tu veux maintenant recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie, tu peux le faire maintenant. Tu lui demandes tout simplement. Peut-être, Flavie, si tu veux venir jouer, d'accord? Et on va simplement prendre quelques instants. C'est entre vous et Jésus. Posez-vous cette question. Qui est Jésus? Et si tu veux qu'il te sauve, demande-lui maintenant de te sauver. Et ensuite, on va se quitter pour ce matin. Prenons quelques instants de réflexion. Jésus, merci, et merci encore. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons, Seigneur. Sois élevé parmi nous. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus. Amen.